Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, avant de rejoindre notre ami Michel Baglin, je voudrais faire quelques annonces assez rapidement, surtout pour signaler la parution de ces livres, non pas pour en parler d'une façon plus profonde, puisque nous réserverons, je pense, aux livres dont je vais parler, nous réserverons plus tard soit une émission entière, soit évidemment des moments d'explication beaucoup plus denses. Alors, le premier, il s'agit du prix 2018 du concours international de poésie de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres. Alors, un concours, effectivement, que l'on ne suit pas toujours, et qui, cette année, enfin l'année dernière, puisque le prix 2019 n'a pas été bien sûr encore décerné, avait été décerné à notre ami Hamid Larbi, qui demeure à Montpellier, avec lequel nous avons eu d'ailleurs l'occasion de faire plusieurs émissions, que j'avais moi rencontré dans des festivals, en particulier dans le Roussillon. Hamid Larbi, qui publie aux éditions Domens, qui publie Les reflets du verbe, Les reflets du verbe d'Hamid Larbi. Donc c'est un très joli recueil qui vous coûtera que 11 euros. Dans ce recueil, nous sommes dit l'artiste peintre qui s'appelle Fanny Abadi, qui avait illustré également les recueils de Michel Écart et Lial. Dans ce recueil, nous sommes mis à l'épreuve, interrogeant notre propre traversée, intervalle calligraphié avec subtilité, d'écueil, jusqu'à l'accueil instant. Aucune frontière n'est tracée de façon précise. De l'inspire à l'expire, nous sommes pénétrés par ce souffle, du verbe au faire, agir le sens où se structure l'humain, de l'intime à l'ultime, les reflets du verbe, recueil de poésie de Hamid Larbi, vous offre l'étincelle de conscience aux caresses de l'instance. Un merveilleux voyage, cœur, corps et âme. On reconnaît là l'écriture particulièrement, comment dirais-je, sensuelle et féminine, donc de Fanny Abadi. Un extrait de Les reflets du verbe de Hamid Larbi. Hamid Larbi, qui, je le rappelle, est journaliste qui a vécu longtemps aussi à Milan, et qui s'est installé en définitive dans la ville de Montpellier il y a quelques années, où il est resté. Dans le soupir de lyrisme, une lueur de sagesse, l'euphonie des vocables, quérir la douceur des mains sur un corps supplicié par des pensées, renaître de la lumière du désir, s'épanouir à travers les reflets du verbe, fureter dans sa fragilité, l'équilibre dévoyé dans l'univers, recueillir du précieux trésor, le mot d'esprit. Aucune terre pour la décence, trouver la postériorité pour les locutions, pardonne-moi mon humble lyrisme, si je t'imagine sur ce monde étranger, même si je n'entrevois pas d'autres abris où édifier les fondements du fort gardien de mes idées, des stèles prêtes à défier le temps, si aucun n'en découvre l'existence. Hamid Larbi, Les reflets du verbe, nous en reparlerons, je tenais toutefois à le signaler à nos auditeurs. Et puis, un vieux poète de l'appeler comme ça, mais parce que bon, c'est un peu plus que ma génération, disons la génération de Michel Cozem. Il s'agit de Michel Lac. Michel Lac, qui publie avec Pierre Collin, qui a disparu il y a quelques années, qui publie un recueil, deux poètes contemporains. Chacun publie un recueil et cette réunion de ces deux noms a été faite par le fils de Michel Ducombe, que nous avons bien connu, Fred Ducombe, qui est poète lui-même, Frédéric Ducombe, dont je parlerai également tout à l'heure, et qui est directeur des éditions 3917, donc des éditions à suivre, nous en avons déjà parlé ici, et il nous offre ces deux visions poétiques des auteurs pyrénéens, donc l'un et l'autre, Pierre Colin et Michel Lac. Alors, il est rare de rencontrer dans un même ouvrage deux écritures aussi différentes que celles de Pierre Colin, celle de Michel Lac, puisque Pierre Colin, c'est une écriture foisonnante, très, très riche, très d'un lyrisme, comment dirais-je, très épanoui, alors que l'écriture de Michel Lac est une écriture, au contraire, aiguisée, qui coupe comme une lame de rasoir, qui est une écriture vraiment, on dirait, minimaliste. Voilà, alors ces deux auteurs ont été réunis. Je demanderai à Frédéric Ducombe de venir ici en parler de ce recueil. Je vais vous lire simplement un extrait de chacun de ces auteurs, de ces poètes, en particulier donc Pierre Colin qui nous a quittés. Parler, c'est de l'eau pure. Descendre là, perdurer dans ce rêve. Descendre et remonter l'abîme en un seul mot. Parler, c'est de l'eau pure. De la mer sans répit, nous tenons notre enfance. Nous mettons du matin sur les lèvres, nous mettons du mystère, des toisons d'or. La barque passe comme un fil, momie qu'on tire au fond des rêves. Parler, c'est de l'eau pure, tous les mots en notre âge. Oasis de chair, mains et paroles, pourquoi changer de rêve à marée haute? Tous reviennent au port et le sang n'a pas d'aile. Parler, c'est de l'eau pure, un œil pour l'océan. La mer est notre rage, nous inventons la mort, nous inventons l'oubli. C'est pourquoi nous parlons, c'est pourquoi nous mourons. C'est pourquoi nous savons de toutes les saisons, les bassesses et les heures. L'hiver pouilleux, l'été barbare et l'automne masqué, égaré hors du bal. Nous cherchons désormais un nom pour chaque lutte, une mouette éternelle. J'ai appris le platane et le hêtre, un ciel pour chaque bouche. Les arbres ne meurent que par amour. Pierre Colin et Michel Lac, ton recueil s'appelle « Assis sans intention ». Chaque lundi en fin d'après-midi se répète la même cérémonie, celle du carnet bleu. Son cœur bat mal, il pleure parfois en silence. L'âme est courte, l'un et l'autre reviennent. Je m'extirpe de ce couloir exigu, puis il faut payer l'acte et partir. Voilà, vous voyez donc une écriture extrêmement resserrée. Et pour rien au monde, il n'aurait laissé sa place dans cet étroit silence. Voilà le poème. Il ne dit mot pendant de longs mois. Voilà, sur le mutisme et le silence. Michel Lac. Pierre Colin, Michel Lac, deux poètes contemporains aux éditions 3917, des éditions à retenir, 10 euros. Et puis Frédéric Ducombe, donc, qui est le directeur de ces éditions, publie chez Sylvaine Rabault, qui a repris ses éditions, dans les éditions Alcyone, dans la collection Suria, un recueil qui s'appelle Wata, W-A-T-A, Wata. Que dire de ce recueil? Alors, Wata, c'est une très belle sorcière des Afriques côtières, qui traverse le temps sans vieillir. Elle remonte les fleuves pour semer le trouble chez les voyageurs qui sont persuadés de son existence. ces champs mêlés au fleuve présagent un événement mélancolique. On parle encore d'elle aujourd'hui sous le nom de Mami Wata. Frédéric Ducombe est un jeune homme qui est né à Bègle en 1970. Après des études jusqu'en seconde, il a obtenu un CAP de typographe et imprimeur. Et au moment de l'armée, il a choisi d'être objecteur de conscience pour 2 ans à l'Institut d'études occitanes. Alors, je fais une petite parenthèse, Philippe Sahut, que nous avons reçu aussi à cette antenne, Philippe Sahut, qui est un écrivain, est aussi un occitaniste et a été aussi objecteur de conscience. Alors, il a été donc dans ce travail qu'il a fait comme à l'Institut d'études occitanes en qualité d'objecteur de conscience, son parrain, c'était Claude Sicre. Claude Sicre, ici à Toulouse, où il a appris la pensée de quelqu'un qui nous est très cher, c'est Félix Marcel Castan. Et il organisait de nombreux événements culturels, bien sûr, autour des idées de Félix Marcel Castan. Il continue ensuite, Frédéric Ducombe, dans l'organisation. On va le retrouver aux côtés de notre ami Jean-François Lafont, dans le fameux carnaval de Toulouse, le Cocu. Et il se consacre à l'édition, aux éditions du Corbeau et à l'écriture. Puis il passe dans la presse écrite, la poésie, le roman pour la jeunesse. Il pratique les ateliers d'écriture, il anime des ateliers d'écriture. Il vit actuellement en Gironde, dans une petite ville qui s'appelle Portets, après avoir passé donc toutes ces années à Toulouse. Nous aurons le plaisir, je pense, d'avoir bientôt sur cette antenne Frédéric Ducombe, que nous recevons avec beaucoup d'affection pour tout ce passé auprès de Claude Sicre, de Jean-François Lafont, des occitanistes également. C'est le fils de notre ami Michel Ducombe. Voilà, Frédéric Ducombe, Wata, aux éditions Alcyone. C'est un livre qui vous coûtera 16 euros. Un tout petit extrait. Elle cherche l'essentiel sur la route, alors qu'il se cache si proche, son Afrique des mers fauves, où elle inhale les fumées noires pour écrire des aurores loin des croyances ordinaires. Libellule insaisissable du cœur des hommes, elle a tranché la trotteuse des routines avec sa faucille courbée à l'échine. Elle a souvi le deuil des paupières, les refermants humides avant d'aller dormir dans d'autres bois de chair. Voilà, Frédéric Ducombe, Wata, aux éditions Alcyone. Et maintenant, nous allons tourner vers Michel Baglin. Michel Baglin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Occitanie ce soir. Nous allons, Michel Baglin, non pas refaire la rétrospective de, je dirais, toutes tes longues et multiples publications, mais nous allons peut-être revenir ce soir au fondement définitif de ton écriture, c'est-à-dire l'écriture poétique. Et dans cette écriture poétique, nous parlions tout à l'heure du lyrisme, cette écriture poétique qui s'inscrit dans la forme contemporaine actuellement du lyrisme. Alors, ce soir, je voudrais que l'on puisse entendre cette voix sur 3 recueils essentiels. Le premier, c'est L'alcool des vents. J'apprends avec beaucoup de joie que L'alcool des vents va être réédité par les éditions Rhubarbe, hein, dont Michel.
Oui, vous avez été publié une première fois au Cherche-Midi.
Cherche-Midi, oui.
Il y a quelques années, et puis il a été très vite épuisé. C'est un recueil qui a bien marché.
Très bien.
Et qui a plu, quoi. Et donc, il a été repris par les éditions Rhubarbe il y a, je ne sais plus, 3 ans, je crois. Et puis il a été à nouveau épuisé, et là il vient d'être édité par le même éditeur.
Alors nous allons en parler de ce recueil, L'alcool des vents, ce livre, qui avait donné lieu d'ailleurs à un spectacle également au théâtre Jules Julien il y a quelques années.
Oui.
Avec Bruno Ruiz.
Oui, avec le comédien Alain Bouguil et la saxophoniste Hélène Arzen. Ouais. Qu'il avait mis en scène et donc donné au théâtre Jules Julien et ailleurs. D'ailleurs, il avait été donné aussi dans un théâtre dans la Drôme, et puis il avait été donné à Lourdes dans le cadre de l'atelier Imaginaire. Oui. Et puis, il a été mis en voix et chanté par Bruno Ruiz, le poète-chanteur Bruno Ruiz, qui l'a donné à la CAF Poésie. Il y a, c'est pareil, 2-3 ans, je ne sais plus exactement, ou 4 ans.
Ensuite, Bruno Doucet, qui a publié Un présent qui s'absente.
Oui.
Et on va revenir un petit peu plus en arrière avec Les pages tournées, suivi de L'adolescent chimérique de l'étranger, qui avait été publié par notre ami Henri Hurtbise, avec dans la collection Fondament. Voilà. Et d'ailleurs, tu disais dans ce recueil, vivre, c'était grandir, jaillir au-dessus des murs, il n'y avait pas de voûte, vivre, c'était s'inventer à chaque pas, se déconstruire, il n'y avait pas de destinée, vivre, c'était se tendre comme un arc, il y avait aujourd'hui et il y avait demain et la flèche de ton désir pour les joindre. De toute éternité, le monde serait à ceux qui ont faim. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui ?
Bon, à peu près la même chose. D'ailleurs, ce texte que tu cites, ce poème, c'est un poème de mon premier recueil, qui s'intitulait « Déambulatoire », qu'avait publié Chambellan en 1974. Et ce recueil, bien sûr, est épuisé depuis longtemps. Et je l'ai en partie réécrit, repris. Et donc, il a été publié par Fondament, par Henri Hurtbise, sous le titre Les pages tournées. Et je l'avais donc repris et encadré de deux textes beaucoup plus récents. L'un qui s'appelle Les pages tournées, qui a rapport à l'écriture et qu'est-ce qu'on cherche dans l'écriture. Et le dernier qui s'appelait L'étranger, c'est une façon à travers les décennies que j'ai eu de m'adresser à l'adolescent que j'avais été jadis, à l'âge de ce premier recueil donc, et qui m'est en partie devenu étranger, mais qui me parle quand même toujours, d'où le fait que je reprenne les textes, même en les travaillant, en les retravaillant. Voilà, donc c'est un dialogue à travers les 40 ans, puisque plus de 40 ans que le premier recueil était paru, et ça voilà, ce sont les pages tournées. Voilà. Mais je voulais juste dire une chose, parce que tu as cité tout à l'heure dans tes annonces trois auteurs qui sont des auteurs, des poètes, des nouvellistes aussi, ben, je pense à Frédéric Ducom, et qui sont aussi des animateurs et des militants de la poésie, parce que Michel Lac avait longtemps eu la revue Imaginaire, Rivaginaire. Pierre Collin était de Tarbes, c'est-à-dire que presque un voisin, et il avait des rencontres littéraires, poétiques, qu'il organisait dans un café, à l'arrière-salle de café. J'y ai d'ailleurs été invité, et il faisait ça régulièrement. Quant à Frédéric Ducom, il a aussi des éditions, l'édition du Corbeau, qui m'ont d'ailleurs invité à plusieurs reprises avec des nouvelles, et c'est aussi un travail de militant. Voilà. Et je voulais juste citer de Pierre Collin une phrase que j'aime bien, « Le cœur nous vient toujours d'un peu d'abîme ». Moi, je crois que la source de toute poésie et même de toute écriture, et peut-être, sans doute même, à la source de tout art, il y a un vertige. Alors, cette notion d'abîme me semble importante. Voilà.
Merci Michel pour cette explication, ce témoignage donc sur ces auteurs et pour le fait que 40 ans après, en définitive, tu dirais persiste et signe.
Oui, mais oui.
Alors, l'alcool des vents, je l'ai dit, va de nouveau être disponible pour le public. On va peut-être, si tu veux bien, te demander de nous lire des extraits de ce livre.
Oui, je vais juste lire, hein. Là, enfin, pour l'instant, j'en lirai peut-être d'autres, notamment peut-être un ou deux inédits, mais il y a un poème auquel je tiens parce que il est engagé et il dit un peu ce que je pense, enfin même il dit beaucoup ce que je pense, il a été repris dans les écoles, etc. Il s'intitule « Frère de terre ». Il est extrait d'un présent qui s'absente, qui est paru chez Bruno Doucet. Alors, je le lis. Vous m'excuserez si je suis un peu essoufflé. J'ai subi une opération importante là, il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'ai parfois un peu de mal à reprendre mon souffle. Mais enfin, ça ne devrait pas m'empêcher de lire le poème. Voilà, ça s'intitule « Frères de terre ». Je n'ai pas de frères de race. J'ai des frères de condition. Des frères de fortune. Et d'infortune. De même fragilité. De même trouble et pareillement promis à la poussière et pareillement occupé à servir, si possible, à quelque chose, à quelqu'un même d'inconnu, à quelques frères de même portée, de même siècle ou d'avenir. Je n'ai pas de frères de race, ni de religion, ni de communauté, pas de frères de couleur, pas de frères de guerre ou de combat, je n'ai que des frères de terre. Secoués dans la galère des espoirs et des désespoirs, des mortels embarqués, des frères de rêves partagés et de peurs trop communes. Je n'ai pas de frères de race, j'ai des frères de conditions bien différents et très semblables d'ailleurs, terriblement interchangeables, dans l'égoïsme ou dans la compassion. Des frères tout pétris de l'envie de partager leur solitude avec le pain et parfois le bonheur insigne d'apprendre ensemble à dire non. Je n'ai pas de frères de race, mais des frères dans le refus de n'être qu'un passant. Des frères par l'art et par le chant et l'énergie déployée chaque jour à tenir tête au néant. Des frères à travers les âges, la géographie et les frontières et qui sait même au-delà de l'espèce, peut-être un frère en tout vivant. Voilà, frère de terre.
Merci Michel, je crois qu'on adhère tous à ce que tu viens de dire, bien sûr. Donc tu parlais des poètes qui étaient aussi des militants de la poésie, tu en es un ou combien, puisque tu as animé pendant longtemps une revue papier qui s'appelait Revue Texture, qui renaît de ses cendres sous la forme contemporaine d'un site, un site prestigieux, qui est le site Revue Texture, précisément, que l'on peut joindre sur Internet.
Oui, c'est Texture Revue, pardon.
Pardon, Texture Revue.
Texture.fr. Et là, on y trouve presque 3000 articles de critique, de poésie, mais pas seulement, de nouvelles, puisque moi je suis aussi un amateur et un auteur de nouvelles, de romans, bien que la poésie reste pour moi fondamentale et primordiale, essentielle. Voilà. Oui.
On avait d'ailleurs, je pense qu'une de nos dernières émissions ici à Radio Occitanie, avec toi Michel, c'était peut-être sur « Dieu se moque des lèche-bottes »,
qui était une pièce de théâtre.
Une force théâtrale.
Le farce théâtral, oui. Oui, c'est toujours pareil, contre les fanatismes religieux, de même que Frères de terre et contre les communautarismes qui nous enferment, qui séparent les gens, qui cloisonnent, enfin bref, qui élèvent des frontières ou des murs entre les peuples et les cultures. Bon, le fanatisme religieux fait la même chose. Et je crois que si, moi je ne suis pas croyant, hein, mais je crois que si Dieu existait, il n'aurait rien à faire, vraiment rien à faire de lèche-bottes.
Alors je crois qu'il y a, voilà, si Dieu existait, tu viens de dire ça, et justement si Dieu existait, c'est le titre d'un de tes poèmes dans Un présent qui s'absente,
oui.
Si tu veux bien.
Ah, non, je ne l'ai pas sous les yeux.
Alors écoute-moi, je vais le lire si tu veux bien.
Hein? Oui.
Si Dieu existait, sa haine m'est pas sans colère. Mon poème peut montrer les dents. Quand une foi arrogante menace du bâillon les infidèles, les athées, les libertaires, et promet l'ordre moral aux libertins, aux affranchis, qui dénoncent l'imposture d'un péché de chair, la lapidation de la femme adultère, la beauté qu'on enferme dans l'insulte d'une burqa, des misérables avilissent l'amour et la vie, et l'on s'attriste qu'ils ne puissent deviner que si leur Dieu jaloux n'est pas un voyeur, il regarde dans les cœurs, pas dans les lits. Pour un oui, pour un non, une caricature, une image non conforme à leur orthodoxie, les voilà en émoi, rameutant le troupeau, en appelant à la censure, au meurtre, à la croisade. Ils crient au sacrilège et feignent d'ignorer que le sacré des uns n'est pas celui des autres, qu'on est pour son voisin toujours un peu dans l'hérésie. Car ces inféodés, ces dévots qui s'indignent du blasphème, semblent incapables de comprendre jamais que le respect humain est dû à la personne, pas son credo, ses opinions, ses utopies. Bien sûr, je connais des croyants convaincus que sans la liberté de conscience, aucune adhésion, jamais, ne vaudrait rien. Qu'ils connaissent le doute et parfois même les tempêtes sous un crâne, et qui n'ont cure des pauvres crédulités nées du clapot des cerveaux, déchirés entre la louange et le refus, ceux-là dont le souci d'autrui oriente la prière, qui voudraient rédimer le monde en misant seulement sur la ferveur et la bonté, sont à mes yeux le seul argument en faveur du divin. Mais je vois trop que leur créateur est à l'image fraternelle du meilleur de leur humanité pour ne pas penser qu'ils l'ont inventé. Pour ma part, je le confesse, depuis longtemps la messe est dite. Le discrédit jeté sur ces relents de religion, ces allégeances à la lâcheté superstitieuse, aux angoisses qui nous accablent, à la peur de la mort, du vide et de l'insignifiance. Je n'ai pas le goût des soumissions, des prosternations ni des genoux à terre. La dignité de mes héros intimes est d'être fille et fils de Prométhée, d'avoir volé le feu au ciel et de lui montrer parfois le poing. Et je me plais à croire que si un Dieu existait, qui valut quelques considérations, il serait de toute éternité du côté des esprits critiques, des rebelles, des insoumis, des mécréants. Voilà, Michel Baglin. Un présent qui s'absente.
Merci pour ta lecture.
Alors, je crois que là, on a effectivement, à la fois, il y a du lyrisme dans ta poésie, mais bon, là, c'est un lyrisme, il y a une philosophie sous-jacente quand même, il y a un engagement et une métaphysique aussi.
Oui, enfin, je ne recherche pas l'engagement pour l'engagement. Pour moi, la poésie n'est pas un tract. Je me méfie d'ailleurs parfois des engagements poétiques qui effectivement amènent le poème à presque au discours, quoi. Mais cela dit, je ne vois pas non plus pourquoi il y échapperait à la vision sociale et politique et philosophique du monde. Moi, j'écris avec ma façon d'envisager les choses, et bien sûr, et avec mes doutes aussi, hein, parce que les doutes sont au moins aussi importants que les opinions, les croyances, etc. Et je pense que ma poésie est riche de doutes, comme mes nouvelles d'ailleurs, hein, ou sans doute mes romans. Voilà, donc bon, je ne refuse pas l'engagement. Et je crois que ça se retrouve dans, oui, effectivement, dans mes recueils, quoi. J'ai notamment un recueil qui avait paru il y a quelques années au Des Bleus, qui s'intitulait L'obscur vertige des vivants, qui va peut-être reparaître au Castor Astral, j'attends la décision, augmenté de pas mal d'inédits. Là, ce sont des poèmes qui sont des approches des lois de la physique un peu, c'est-à-dire que c'est une façon de métaphoriser les lois de la physique, donc je parle des trous noirs, je parle de la gravité, je parle bien sûr des gènes, de ce que la vie nous traverse et transmet à travers les individus quelque chose de l'espèce, je parle voilà, du vent, de l'humus comme territoire de la mort et aussi de la renaissance. Bref, ces textes-là, d'ailleurs je pourrais en lire un peut-être,
oui, voilà.
Enfin une petite suite, ce sont des suites, et bon, ils traduisent une vision du monde, hein, à laquelle je suis attaché, bien évidemment, puisque c'est en gros, c'est la mienne, hein, mais là encore avec pas mal de doutes, mais avec aussi, bon, une façon de voir les choses que je revendique, hein, que j'assume.
On t'écoute, Michel.
Pardon ?
On t'écoute.
Ah, excuse-moi.
Sur ta lecture.
Je t'entendais mal avec le retour, là. Oui, donc je vais juste lire quelques textes, si je les retrouve, parce que je les ai devant moi, mais c'est pas évident de retrouver. Voilà. Sur le vent. Ce sont des petites suites, donc, de textes en prose. Hein. Et chaque suite a un sujet. Donc là, c'est le vent. Il te croise ou te dépasse, mais jamais ne va à ton pas. Le vent n'est pas un compagnon de route. Tantôt il te pousse, tantôt te freine, mais toujours t'empêche de te pétrifier. Il interdit la fille, le contentement de soi. Lui qui nous vante et nous invente des plumes d'aigle est un adepte du rebrousse-poil. Il envoûte les nuages, sculpte l'invisible, réveille des vagues dans les conifères qu'il rend fou. Écoutons-le, il ose ce qu'on ne dit pas, parle parfois pour nous. Il joue d'une batterie discrète dans les haubans, puis passe aux grandes orgues dans les branchages de l'hiver. Il porte le chant. Il fait sa lessive au bleu, se lance dans l'azurage de la lumière. Lui qui joue les entremetteurs entre les arbres, les graines et les fleurs, soulève la poussière et les pollens, la suie et les parfums. Il s'offre à tous, mais aussi à chacun. Le vent arrache les dernières feuilles des chênes mortes depuis longtemps. Il balaie devant nos portes et disperse les prudences fétides. Il purifie. Lui qui écharpe les arbres malades et nous échevelle, se glisse sous nos vêtements juste pour nous forcer à croire que nous sommes vivants. Il siffle dans les ramures et transporte plus sûrement que nos pas vers ces fameux pays que l'on désespère d'atteindre. Il est le messager des contrées que l'on croit perdues. Le vent souffle de l'enfance vers les grands rêves de voyage. Son lyrisme est de haute mer et de cime, de terre brûlée et de banquise. Il est le chantre des déserts comme des neiges éternelles et des solitudes australes. Il ne raconte pas, il célèbre. Ouragan ou tempête, il arrache du sol et emporte pour mieux laisser retomber tous les élans des êtres qu'il inspire. Les flots qui gonflent, les portes qui battent, la pluie qui cingle et la voile qui glorifie, lui sont redevables de leur force de vérité. Derrière ces hurlements, un grand silence se fait. Quand le vent tombe, la mort alors se remet à causer. Alors ça, c'est un texte inédit de ce recueil, L'obscur vertige des vivants, qui devrait donc peut-être reparaître au Castor Astral, où j'ai déjà fait paraître, il y a quelques années, une anthologie personnelle.
Tout à fait. Alors, Michel, merci beaucoup pour. C'est toujours émouvant d'entendre ces textes lus par le poète lui-même. Hein, je crois que.
Oui.
Quel est ton regard sur la poésie aujourd'hui?
Ah, la poésie aujourd'hui,
Elle est
je crois qu'elle
multiple.
est comme de tout temps d'ailleurs, très vivante. La poésie est toujours très vivante, même si elle est ignorée des médias. Ignorée ou déformée, parce que on parle très souvent de poésie, enfin on utilise le mot à tout propos. Dans les journaux, moi j'ai été journaliste pendant 35 ans, hein, donc là je rends hommage à mes confrères pour bien des choses, mais pas pour leur approche de la poésie qui est en général d'un conformisme assez terrible. On parle de poésie quand on ne sait pas quoi dire. En gros, une chose est poétique quand on ne sait pas la qualifier. Et en fait, on utilise le mot poésie pour ce qui est le moins poétique. Parce que moi, je crois que la poésie est justement, c'est pas l'ineffable, c'est pas décoratif non plus. On a tendance à penser que la poésie serait ornementale, une façon de dire. La poésie est une façon d'utiliser le langage pour dire des choses intimes, des choses profondes. C'est quelque part la recherche du plus grand langage qui véhicule aussi bien l'affectif que le rationnel. C'est la recherche, oui, d'un langage de la communion pratiquement entre les êtres. C'est un dialogue d'intimité à intimité. Donc ça suppose un effort sur le langage qui fait que la poésie effectivement a un rapport très, très étroit avec la langue et avec le langage, mais aussi avec le corps, parce qu'elle fait continuellement référence par ses images aux émotions et aux sensations que l'on a ressenties, à la mémoire sensible, si on veut. Et puis bien sûr au rationnel, parce que les idées y ont leur place. C'est la vision du monde. Donc, je pense que la poésie, on peut la définir surtout sur ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas décorative. Un poète, Charles Minetti, disait, la poésie, c'est ce qui donne du mérite à la vie. Bon, c'est une définition assez simple, pour ne pas dire simpliste, mais en même temps assez profonde, parce que effectivement, je crois que l'échange entre les êtres humains, l'échange verbal ou autre, par la peinture, par la musique, mais cet échange d'intimité à intimité, c'est ce qu'on a de plus riche, et à la limite, c'est la seule chose qui fait vraiment sens dans nos vies, parce que bon, on peut penser, c'est en tout cas mon cas, que nos vies n'ont pas grand sens. On est là de passage, on ne sait pas pourquoi on arrive et pourquoi on repart, mais ce passage, cette parenthèse dans le néant, elle a de sens et de valeur surtout par les échanges qu'on a avec les autres. Je sais plus, je crois que c'est Todorov, ou peut-être Jacquard, je ne sais plus, qui disait je dis je parce qu'on m'a dit tu. Je crois que c'est exactement ça. On est au sens de être, au sens profond de l'être. On est parce que les autres nous reconnaissent quelque part. Et ils nous reconnaissent à travers ce qui leur parle et leur ressemble. On est dans le dialogue d'intimité à intimité, encore une fois. J'aime bien cette formule. Et je pense que la poésie, c'est justement la recherche de ce dialogue. Donc, la poésie, en ce sens-là, est primordiale. D'autre part, la poésie renvoie à la justesse des émotions. Quand on lit un poème et qu'il nous touche, c'est que les images sont justes, nous parlent. Et si on les ressent comme justes, si elles nous parlent, elles donnent du poids à ce qu'on regarde, à ce qu'on évoque. Je pense que, en fait, la poésie nous aide à être plus présents au monde. On ne voit pas les mêmes choses quand les images sont froides. Une image nous permet de mieux voir le réel, de mieux le sentir, de mieux l'écouter, l'entendre, de mieux le toucher même. Voilà, je pense que c'est. Voilà. Donc la poésie nous aide à vivre, en fait, tout bêtement, et à être là, je dirais. Donc c'est primordial. Alors la place de la poésie, dans ce sens, elle est, depuis que les hommes sont sur Terre, je crois qu'il y a une forme de poésie, qu'elle soit picturale, langagière, musicale, c'est le besoin de partager. Les hommes qui peignaient sur les murs des cavernes, toutes les peintures rupestres, enfin l'expression, sont déjà cette recherche de l'autre et du dialogue. Voilà, je suis un peu long, excuse-moi.
Non, au contraire, c'est ce que l'on recherche. Hein. Au contraire. Donc on voit que la poésie, aucun domaine n'échappe en définitive au poète.
Hein. Non, je crois qu'aucun domaine n'y échappe, non.
Il y a une définition de Fernando Pessoa, si tu veux bien, je vais te la lire, c'est dans Un singulier regard. Pessoa qui dit, car la poésie, c'est la stupeur, l'éblouissement d'un être tombé du ciel, et prenant pleine conscience de sa chute, abasourdi de ce qu'il voit, tel un être qui aurait connu l'âme même des choses, et qui tenterait de se rappeler cette science passée, se souvenant de les avoir connus sous un aspect différent, sous d'autres formes et dans d'autres situations, mais qui ne se souviendrait de rien d'autre.
Oui, ça c'est parfait. C'est vraiment, je suis tout à fait d'accord. J'avais écrit il y a quelques années un essai qui s'intitulait Poésie et pesanteur.
Oui.
Et qui était paru à l'atelier du Gué. Et alors, je disais que la poésie est un chemin de crête entre l'étonnement et la complicité. C'est exactement ça. L'étonnement, parce que je pense que l'image poétique, le poème, nous touche quand quelque part il nous surprend, c'est-à-dire qu'il fait référence à quelque chose que l'on sait, mais qu'on a oublié d'une certaine manière. Et d'autre part, la complicité, parce que s'il n'y a pas, si on ne se retrouve pas derrière l'image, on ne la trouve pas juste, eh bien il n'y a pas de communication possible, et encore moins de communion. Donc c'est entre la surprise et la complicité que se joue tout le langage poétique. Et c'est exactement ce que dit le texte que tu viens de... Enfin, la citation que tu viens de faire.
Michel, si tu veux bien, il nous reste quelques... Si, il nous reste 6 minutes. Bon, on va finir par des lectures de textes. Tu m'as parlé d'inédit. Est-ce que tu pourrais nous lire un texte inédit et peut-être... Est-ce que tu veux bien terminer par ce texte, notre planète le texte que tu m'as envoyé récemment, notre planète.
Ah, notre planète.
Mais avant, si tu veux bien nous lire, on a 6 minutes, donc tu peux nous lire autre chose avant, si possible inédit.
Oui. Alors, je vais d'abord lire chez Doineau. J'aime beaucoup la photographie et
j'ai un
texte qui est encore inédit qui a trait aux photos de Doineau.
Ah oui.
Les gens qui aiment la photo et qui aiment Doineau retrouveront les images de Doineau dans ce poème.
Oui.
Je l'ai écrit après avoir travaillé avec Jean Dieuzet, photographe.
Voilà ce que je voulais dire.
J'ai fait un recueil avec lui en choisissant des photos dans ses archives, une quarantaine de photos, et j'ai écrit 40 textes. Ça a été publié par les éditions Priva. Ça s'intitule Le champ du regard. Et bon, ce livre a plu et il a plu notamment à un autre photographe en Bretagne qui s'intitule Yvon Kervigno, avec qui je viens de faire un livre. Il m'avait envoyé 500 et quelques photos. Il m'a demandé si j'étais d'accord pour écrire sur une trentaine de photos. Je les ai choisis, bien sûr, et j'ai écrit une trentaine de textes avec des photos en regard. Le livre s'intitule « Visage de village », parce que ça a trait aux fêtes de village en Bretagne. Et ce livre, il est disponible. Et donc, voilà, c'est un rapport à la photo. Et donc, je vais lire chez Doineau, parce que c'est un rapport à la photo également. Voilà, chez Doineau. Il y a des robes qui tournoient dans les balles, des becs de gaz, des terrains vagues, des péniches sous les ponts et des manèges sous la pluie. Et puis les bouts d'Aubervilliers ou des gosses barbouillés conquièrent le Far West à l'énergie. Il y a de la craie sur l'asphalte et les murs qui s'effritent. Des escaliers au bout des rues, des balayeurs qui tiennent le crachoir aux hirondelles et des concierges avec leurs chiens pour regarder passer les écoliers qui marchent sur les mains. Il y a des tatoués modestes et de vieilles gens aux sourires édentés derrière les façades défraîchies, avec sur le trottoir en bas des motos qu'on répare et que lorgnent des mômes crevant d'envie. Il y a des places vides et des bancs de bois qui invitent les amoureux à se serrer un peu, des caniveaux pour faire flotter les bateaux et des boutiques avec au fronton des noms de métiers qui n'existent plus. Il y a des marchands de marrons et de quatre saisons, des quais et des terrasses où l'on s'embrasse, des chapeaux qu'on retient d'une main dans le vent froid des hivers d'après-guerre. Il y a tout un inventaire en noir et blanc, et Prévert aux abesses, la clope au bec, et les toits et les fumées, et le pavé qu'on a perdu, et le livreur de sueur, et la craie qui s'efface sur les murs. Il y a le petit bonheur de pouvoir saisir des riens, de donner un peu de lustre au quotidien, et de boire le sirop de la rue avec le rire des comptoirs, au chaud, au fond de ces cafés du bon coin, qui sont à la proue des immeubles d'angle, comme de la merveille d'exister et du chagrin qui passe. Voilà, ça c'est un inédit. Et donc tu me demandes de lire un poème, qui s'intitule Notre planète. C'est mon dernier poème que j'ai écrit là. Comme je le disais tout à l'heure, je veux pas m'étendre, mais bon, j'ai subi une opération important, si j'avais envie de témoigner à mon épouse, Jackie, lui dédier un poème. Donc je vais le lire. Tant de mêmes paysages peuplent nos regards. Depuis plus d'un demi-siècle ensemble, nous jouons les balanciers sur la crête des jours traversés. Craignant pour l'autre, se tenant du bout des yeux, nos pieds sur la corde raide, comme nos cœurs cherchant l'équilibre, s'inventant des gestes simples de la confiance, trouvant l'appui à demi-mot. Sous la poussière retombée des années, nos vies ont composé une planète familière, une géographie de lieux conquis et de pays inventés, où nos deux enfants poussent leur chemin. Cette terre nous est commune, elle nous nourrit, tandis que notre mémoire frémit au murmure des mêmes sources, et l'on partage l'un et l'autre les sentiers d'alpage qui nous conduisent encore par la pensée sur l'épaule nue de la montagne, les ravines et les passages d'éboulis, et l'éblouissement de la mer scintillant à nos pieds. Depuis plus d'un demi-siècle de l'amour, nous a mis en route ensemble tant de fois nous a dessiné derrière l'horizon du quotidien des gardes-campagne, des terminus d'utopie, un môle, un phare, un bout de terre, une île, et les petits enfants de l'avenir. Des champs de lavande aussi pour baigner nos caresses, des chambres de pénombre pour en rebeller l'été. Nos corps se connaissent et s'épellent du bout des doigts. Ils ont toujours crainte de se perdre et se cherchent la nuit comme nos sourires devinés. Ils ont toujours crainte de se perdre pour s'être un peu perdus naguère, en des courants contraires, sans cesser de se connaître pourtant, ni de retrouver leur forme dans le moule de nos mains. Plus d'un demi-siècle d'amitié ont arrondi nos angles. Le miel de la complicité étale sa douce lumière sur les blessures et les angoisses de nos âges. Un printemps, toujours, soulève nos terres et ses pousses neuves de sa verdeur de promesses. Et le gros coton gris des ciels de novembre n'y peut rien. Voilà.
Merci beaucoup, Michel. C'était un mouvement très, très intense d'émotion. Merci beaucoup. Donc, Michel, nous te souhaitons, bien entendu, très bon et surtout un prompt rétablissement le mieux possible. Et nous espérons t'avoir dans les studios de nouveau pour une de tes prochaines publications très vite. On va rappeler quelques ouvrages de toi. Un présent qui s'absente, dont Michel Baglin aux éditions Bruno Doucet. L'alcool des vents, donc, aux éditions Rhubarbe, maintenant.
Oui.
Et puis également, Dieu se moque des lèche-bottes, c'est le bruit des autres.
Oui.
Et puis, est-ce que la table ronde entre les lignes, j'avais beaucoup aimé ça aussi, entre
oui,
les lignes.
Oui, alors ça a été réédité par le bruit des autres. Voilà. C'est un livre qui avait très bien marché.
Oui, oui,
tout enfin, à très bien marché.
Oui,
qui a eu beaucoup de critiques.
Oui.
Voilà. C'est un récit. Hein. Et j'ai aussi des nouvelles. Les nouvelles, j'ai publié plusieurs recueils. Le dernier s'intitule « Au trouble ».«
Au trouble », voilà, aux éditions Petra.
Voilà.
Aux éditions Petra, hein,
voilà.
À lire. Et puis, je ne sais pas si...
Donc,
si
je crois que le c'est... dernier recueil, donc, avec les photos d'Yvon Servigno, donc « Visage de village ».
Alors ça, c'est sur la Bretagne. Et c'est chez quel éditeur, Michel ?
Alors, c'est l'Aventure Carto. C'est un tout petit éditeur, hein. c'est presque confidentiel. Mais le livre est très beau, très belles photos avec des belles reproductions. Alors, il faut chercher sur Internet, parce que j'ai pas l'adresse sous les yeux, l'Aventure Carto, ça s'appelle. Carto comme les cartes, parce que c'est quelqu'un qui fait des cartes postales aussi, d'artiste.
On n'a pas eu le temps ce soir de parler des lieux, et parce que le lieu, là tu parles des photographies, mais c'est sur la Bretagne, donc c'est un lieu quand même particulier.
Ouais.
Tu as écrit « Les Pas Comptés
oui. »,
chez Rubarbe d'ailleurs, ça a été publié. Et
oui.
Ce sont tes carnets de Cerdagne. Hein,
c'est sur le. C'est un rapport entre l'écriture et la marche et la randonnée.
Voilà,
parce que
voilà.
Je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre l'écriture et la marche et la randonnée. Moi, j'aimais la randonnée. On en a fait beaucoup avec mon épouse en Cerdagne. Et puis. Voilà, donc ça s'appelle Les Pas Comptés. Ça a été repris dans un recueil chez le même éditeur, Rubarbe, qui parle d'écriture et de lecture et qui s'intitule Chemin d'encre. C'est sur la découverte de la littérature et puis les enjeux de l'écriture. Voilà, Chemin d'encre.
Chemin d'encre. Merci beaucoup, Michel.
Merci
et
à toi.
À très bientôt. À très bientôt, Michel. On t'embrasse.
À bientôt et merci. Bonne soirée.
Merci Michel. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.